Quel a été votre parcours avant d'entrer à l'ENSIB et pourquoi avoir choisi ce métier de conservateur?
Non, j'ai un parcours, mais je pense que une personne sur deux vous répond ça. J'ai un parcours un petit peu atypique. Et surtout, j'ai fait les choses un petit peu à l'envers. J'ai travaillé en bibliothèque avant de faire une démarche que je croyais, en entrant à l'ENSIB, être simplement avoir des papiers. C'est-à-dire avoir. Je pensais que l'ENSIB serait simplement une manière d'officialiser quelque chose que j'avais acquis sur le terrain. Et en fait, c'est vrai que j'ai appris beaucoup plus. Il y a une vraie valeur ajoutée à l'ENSIB, de mon point de vue, malgré tout. Alors, mon parcours universitaire, j'ai fait un baccalauréat économique et social. Après, j'étais à Sciences Po Paris. Après Sciences Po Paris, où je me suis plutôt spécialisé dans tout ce qui était communication, ressources humaines, journalisme, et puis politique publique, politique culturelle. Et je suis parti au Canada. Donc, je suis allé à l'université McGill, où j'ai fait un programme d'études supérieures en communication. Je croyais que c'était du journalisme, mais en fait pas du tout, c'était plutôt anthropologie culturelle, post-structuralisme, post-modernisme, les années 90 au Canada, en Amérique du Nord. Donc un choc culturel énorme d'un point de vue académique par rapport à ce que j'avais pu faire à Sciences Po. Et au Canada, j'ai travaillé notamment sur une thèse en fait sur les institutions culturelles et la science politique, avec une étude de cas sur la construction de l'Opéra de Montréal dans les années 60. Voilà, donc je travaille sur les questions de nationalisme, identité nationale et l'argument des institutions culturelles. Et je le dis parce qu'en fait, ça m'a suivi dans l'approche des bibliothèques, en fait, d'avoir la bibliothèque aussi comme non seulement un instrument de politique publique, mais aussi un objet symbolique, du point de vue de l'État, du point de vue de la relation institutionnelle au savoir. Et donc au Québec, en même temps que mes études, j'ai travaillé du coup à l'Opéra de Montréal comme barman, figurant, etc., pour être sur mon terrain de recherche et aller à la source de l'époque en fait qui m'intéressait, c'est-à-dire les années 60, pour trouver des acteurs syndicaux et autres, tout ça. Et c'est vrai que mon parcours en fait scientifique ou méthodologique, c'est beaucoup la sociologie des organisations.
Oui.
Voilà, et donc c'est aussi un fil conducteur dans mon approche des bibliothèques, comme système, univers de valeurs, de croyances, jeux de rôle, organisation. Et ce qui m'intéresse dans la bibliothèque, mais c'est déjà la deuxième question, c'est justement la bibliothèque comme organisation et comme système, comment est-ce qu'elle se met en phase avec les évolutions du monde, les évolutions des objets, les évolutions du public. Donc j'ai pas tellement d'intérêt pour les objets culturels en tant que tels, j'aime pas spécialement les livres, j'aime bien les gens, mais ce qui m'intéresse c'est comment un organisme, structuré administrativement, humainement, historiquement, s'adapte à l'évolution de son contexte en fonction des acteurs qui s'y trouvent, politiques, experts, opérationnels, techniciens, comment tout ce monde-là fait la bibliothèque en fait, et la change. Donc le travail que j'avais fait sur l'Opéra de Montréal était en fait première tentative de terrain de rentrer à la fois dans la théorie, la pratique et l'histoire d'une institution système en fait. Voilà, et après le Canada, je suis parti en Norvège, où je devais faire mon service militaire à l'époque dans la coopération, ça existait encore. Et j'étais recruté sur un poste très rigolo, puisque j'étais animateur de radio pour une radio franco-norvégienne qui s'appelait Radio Paris-Oslo, qui était mon poste de départ. Et donc là, j'avais une émission quotidienne qui s'appelait Madame Rêve, où je faisais l'actualité culturelle et domestique en français et en norvégien. Voilà.
D'accord.
Et puis, en fait, c'est comme ça que je suis rentré dans les bibliothèques. En même temps que j'étais sur ce poste, on m'a parlé d'un projet qui consistait à construire une petite bibliothèque pour le Centre culturel français d'Oslo, donc sous l'égide de l'ambassade de France. C'était à l'époque, les années 96-97, où il y avait une réforme assez importante du réseau des bibliothèques françaises à l'étranger. Et en fait, Oslo étant un petit poste, enfin, qui avait une certaine agilité, on va dire, de fonctionnement, le MAE a décidé d'en faire un projet pilote. Donc j'ai eu des moyens et des bonnes conditions pour fabriquer en fait une bibliothèque alors que je n'étais pas bibliothécaire. Voilà, et donc ma première expérience professionnelle dans ce monde-là, ça a été vraiment, on m'a donné un espace qui était une grotte. Au sous-sol d'un bâtiment historique d'Oslo où il y avait le centre culturel français, une personne, un budget, et voilà. Et donc, sans savoir ce que c'était qu'une bibliothèque, j'ai fait en fait toutes les petites choses qui font qu'on construit une bibliothèque. Donc, de la pose de la moquette, en passant par les rayonnages Borgeau, les acquisitions. Du premier fonds, les premiers ordinateurs, donc on est en 96, le premier site internet, les premiers CD-ROM, voilà, et la mise en place d'une petite équipe, d'un service à distance, par téléphone, par mail, sur une période de 2 ans et demi en fait. Donc j'ai inventé, enfin improvisé ma vision d'une bibliothèque, donc, qui était très liée à construire une petite structure qui devait s'articuler avec un environnement. Qui était l'environnement d'Oslo, de la Norvège, le contexte de la diplomatie culturelle française de cette époque-là. Voilà. Et donc, j'étais à mi-temps entre la radio et ce projet. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la bibliothèque.
D'accord.
Voilà. Et donc, à l'issue de cette expérience et à la fin de mon service militaire, le ministère des Affaires étrangères m'a proposé un contrat local pour faire la même chose sur un autre poste. Et donc, je suis parti en Autriche, à Vienne, où là, il y avait déjà une bibliothèque historique qui existait depuis 40 ans, qui était très marquée par l'histoire diplomatique entre la France et l'Autriche. Plutôt une bibliothèque au départ de recherche, qui correspondait à la grande époque des échanges académiques et scientifiques entre la France, enfin, entre Paris et Vienne, autour de la période de la guerre et avant. Et là, donc, j'ai hérité d'un projet fabuleux, puisque c'était un palais d'été au milieu de Vienne, un peu le palais de la Belle au Bois dormant, avec des collections assez importantes en quantité et en qualité, une équipe de 4 dames en chaussons. En chaussons, parce que sur le parquet viennois, il faut faire attention. Et j'avais quel âge ? J'avais 27 ans, et on m'a dit, voilà, j'ai dit, quels sont les objectifs ? Et mon secrétaire général m'a dit, vous avez carte blanche, mais il faut qu'il y ait du monde, des jeunes. Alors. Voilà, et donc pendant 3 ans, j'ai complètement repensé l'organisation du service, ce qui impliquait de licencier la moitié de l'équipe, puisqu'on était aussi dans une situation budgétaire qui ne permettait plus d'avoir tout le monde, et d'acheter massivement les documents de lecture publique, en fait. Donc, lancer un fonds de BD, lancer un fonds de musique, faire complètement évoluer la vision du cinéma. Et là, pareil, en fait, je pense que j'ai découvert beaucoup de problématiques de lecture publique, mais dans un contexte qui était particulier, puisque ce que je construisais, c'était une bibliothèque assez généraliste et grand public, mais elle était spécialisée parce qu'elle était française en Autriche. Voilà. Et c'était aussi assez intéressant d'un point de vue d'aménagement, d'un point de vue architectural, puisque c'était un bâtiment classé avec beaucoup de contraintes, en même temps beaucoup d'atouts, donc une sorte de terrasse, on a créé un salon de lecture. Là encore, des sous-sols qu'on a aménagés de manière un peu cosy. Et puis penser la circulation des gens, articuler à ça l'organisation du service, l'évolution des pratiques du personnel qui était très ancrée dans une histoire assez ancienne. Et ça a été vraiment une très belle aventure. Voilà, c'est l'épisode Vienne. Et tout ça m'a conduit dans les années 2000, en fait. Et je suis rentré en France en 2000. Voilà. D'accord. Et là, je ne savais pas quoi faire parce que j'étais dans les bibliothèques. Ces postes qui avaient, en fait, qui sont des postes intéressants parce qu'on a accès à des professionnels qu'on ne rencontrerait pas si on était en France sur des postes similaires, mais qui passent. Donc il y a des manifestations professionnelles, culturelles, il y a des échanges. Donc j'avais l'occasion d'organiser à Vienne un colloque avec la BPI sur les relations entre l'Europe centrale et la France autour du livre, autour des bibliothèques. Et donc j'ai rencontré plein de personnalités qui ont été un peu après des parrains ou des marraines dans mon parcours. Donc des gens comme, je sais pas, Martine Blanc-Montmeilleur, qui dirigeait la BPI à l'époque, ou Francine Thomas, qui à l'époque dirigeait le réseau de bibliothèques de Strasbourg, Michel Melot qui passait par là pour des réunions de normalisation. Donc j'ai vu passer des tas de gens, j'ai eu l'occasion de discuter avec eux de manière un peu privilégiée. Et c'est vrai qu'ils m'ont parlé de leur métier. Et je pense que ça m'a donné envie de rentrer en France où je ne savais pas trop quoi faire, de continuer dans les bibliothèques. Donc j'ai cherché du travail parce que je suis rentré, mais un petit peu brutal et pas très calculé en fait, pas programmé. Et j'ai été recruté comme contractuel à la mission de préfiguration de la bibliothèque de l'INHA,
Ah oui.
donc l'Institut national d'histoire de l'art. Et au départ, c'était des vacations sur un travail bibliométrique en fait, puisque c'était l'époque où il y avait Bruno Van Doren qui pilotait la programmation. Toute petite équipe, hein, on était trois sur la mission de préfiguration. Et moi, en fait, je m'occupais de faire le lien avec le programmiste, avec le cabinet Cronier à l'époque, et les bibliothèques qui devaient intégrer l'INHA. Et donc là, toujours sans être bibliothécaire, toujours sans être professionnel, j'ai appris un travail assez différent qui était comment on évalue des redéploiements de collections
Oui.
par rapport à un bâtiment sur des fonds spécialisés. Donc c'était passionnant parce que j'ai travaillé aussi bien avec les bibliothèques de l'école des Beaux-Arts que Doucet, l'école des Chartes, la bibliothèque du Louvre. Donc, et des tas de rencontres encore. Voilà. Et là, en fait, justement, les collègues conservateurs qui m'ont adopté autour de ce travail m'ont vraiment préparé au concours. Voilà. Et m'ont fait passer des oraux blancs épouvantables. M'ont vraiment préparé. Et j'ai été reçu immédiatement, enfin, dès le premier coup. Et donc après, je suis arrivé à l'INSIB. Voilà.
D'accord.
Un peu long, mais c'est très sinueux.
Non.
Et du coup, je suis arrivé à l'INSIB. Avec une motivation qui était au départ, je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment le sentiment que c'était une formalité. C'est-à-dire, je pensais avoir accompli déjà suffisamment de choses dans des contextes assez différents pour savoir déjà l'essentiel sur la profession. J'avais déjà en fait été formateur ou un peu consultant en bibliothèque sur des choses ponctuelles du fait du réseautage ou des opportunités. Et donc j'y suis allé en me disant, bon, je ne vais pas apprendre grand-chose, mais j'étais très content après une période qui était quand même relativement instable en termes de statut, hein, puisque j'ai enchaîné des contrats, j'étais pas très bien payé, voilà, de devenir fonctionnaire et d'avoir aussi une sorte de vision avec des étapes, des affectations, dire, voilà, une carrière en fait, dire qu'il allait y avoir un cadre assez sécurisant. Conduire ce métier et finalement faire ce choix de métier quoi. Et je pense que je vous ai dit en fait en filigrane pourquoi je l'ai choisi ce métier. J'aime les organisations et la bibliothèque est un système extrêmement plastique, c'est-à-dire que l'organisme bibliothèque est de toute façon un univers dans un écosystème. L'écosystème, il change tout le temps, dépend du type d'établissement, de ses missions, de l'environnement territorial, de la collectivité où on se trouve. Et cette espèce, la multiplicité des possibilités de l'objet de bibliothèque, déjà me plaisait parce que ça voulait dire on choisit un métier, mais on ne va pas s'enfermer dans une fonction, dans un milieu, on va pouvoir en évoluer tout au long de sa carrière. Et puis ce que j'avais aussi compris, c'est que le métier de bibliothécaire, de manière générique, permettait de faire une variété de choses incroyables. On pouvait faire de l'aménagement, du bâtiment, de l'architecture, j'avais beaucoup travaillé là-dessus. On pouvait travailler sur les publics, sur la question, si on est un peu dans des paradigmes idéologiques, on pouvait un peu sauver le monde, on pouvait contribuer à la démocratisation, etc. Être plutôt sur des enjeux scientifiques, patrimoniaux, même si à l'époque ça m'intéressait pas tellement le patrimoine. Et donc j'avais aussi une garantie de polyvalence. Et sachant que, a priori, étant conservateur dans le cadre, ça voulait dire une relative marge d'autonomie. Piloter des projets, pas avoir demandé tout le temps son avis à son chef, ce qui était important pour moi. Je ne me voyais pas. Devoir rendre compte tout le temps. C'est important de se dire je vais avoir des marges de manœuvre. En fait, ce que j'ai pas précisé, c'est mes affectations sortant de l'école, puisque j'ai pas toujours été à la VNF. En quittant justement l'ENSIB, après avoir fait mon stage d'études à la BPI sur les questions d'évaluation et le tableau de bord, je suis allé à Paris 8, à la Bibliothèque universitaire de Paris 8, où j'ai eu un poste passionnant mais très difficile, puisque j'étais responsable des services au public. Voilà. Et donc, Paris 8, je ne sais pas si vous connaissez le bâtiment magnifique, une sorte de perle au milieu de la zone. Moi, je suis né en plus à Villetaneuse à côté, donc j'avais un intérêt à revenir chez moi, en fait. J'ai adoré le public, qui posait plein de questionnements, qui était à la frontière de la lecture publique et des BU. Avec le personnel, ça a été plus difficile. Voilà. Et donc, j'ai tenu 2 ans. Et là, ce que j'ai appris, c'est qu'on ne peut pas changer le monde. Et qu'il ne suffit pas, c'est un conseil que je donne toujours aux conservateurs, aux jeunes conservateurs, il ne suffit pas d'avoir résolu un problème dans sa tête ou d'avoir exprimé une solution dans une note pour que le monde ait changé. Voilà. Et entre la manière dont soi-même, individuellement, on gère scientifiquement ou intellectuellement une question et la manière dont la réalité résiste.
Oui.
La manière dont justement votre point de vue sur la résolution de cette question est partagé ou non par une équipe, il y a forcément un monde et c'est normal. Mais sauf qu'à l'époque, je pensais pas qu'on pouvait être satisfait si on arrivait qu'à mi-parcours de son idée. Voilà. Donc j'ai été assez malheureux et j'ai pas mal souffert de la résistance de la réalité en fait. Voilà. Et à Paris 8, qui était un endroit où il y avait beaucoup d'opportunités, beaucoup de résistance et beaucoup d'obstacles aussi. Mais j'ai appris ça. J'ai appris à me satisfaire de ce qui me paraissait avant être des compromis ou des moitiés de résultats ou des moitiés de succès, parce que on est jugé sur ce qu'on arrive à réaliser avec les ressources qu'on a.
Bien sûr.
Et aussi à proposer aux équipes avec qui on travaille ce qu'il y a de mieux pour elles. C'est-à-dire, monter au maximum de ce qu'elles peuvent, mais pas avoir une exigence qui ignore la réalité de leurs moyens et de leurs souhaits aussi. Donc composer avec les gens. C'est une affaire collective. Voilà. Et après, à la BNF, j'ai découvert le patrimoine, en fait, que j'avais toujours totalement ignoré. Je ne voyais pas l'intérêt, puisque moi, je venais vraiment plutôt d'une perspective de lecture publique, servir un public immédiat, aller le conquérir dans les quartiers, que ce soit à Saint-Denis ou à Vienne ou à Oslo, trouver une identité d'établissement qui s'intègre dans un écosystème, une actualité. Et donc, l'arrivée à la BNF, où la mission de conservation prime sur la mission de communication, c'est dans ces missions, clairement, était un choc culturel total. Mais ce qui était amusant, c'est que mon premier poste a été chef de projet pour mise en place du dépôt légal de l'Internet. C'était à l'époque un petit projet qui faisait partie du département de la bibliothèque numérique, qui était piloté par Catherine Lupovici. Et j'étais allé sur ce projet en me disant, tu vas prendre un sujet où tu ne comprends rien, mais qui pose des enjeux d'organisation super intéressants. On prend un projet complètement impossible, archiver le web, et comment on l'intègre dans une organisation super compliquée, la BNF. Je trouvais que c'était un très beau défi. Et en fait, en essayant d'accomplir ça, j'ai découvert la problématique patrimoniale, j'ai découvert le numérique, j'y connaissais rien avant de venir ici, et je suis tombé amoureux du patrimoine numérique, en fait, de cette question-là. Et ce que j'ai appris aussi, c'est progressivement à monter dans l'organisation, voir les couches successives de l'organisation, avec à chaque fois des regards différents. Et donc, Catherine Lupovici est partie un peu de manière brutale en 2007-2008, et je me suis retrouvé brutalement propulsé à assurer l'intérim de sa direction pendant une année. Et là, je me suis vraiment mis à réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire le numérique pour la BNF. Et donc j'ai proposé finalement la dissolution du département de la bibliothèque numérique sur la base d'une analyse qui était que toute la bibliothèque devenait numérique et que si tant qu'on maintiendrait une unité qui s'appelait comme ça, on n'arriverait pas à partager. Et donc, ça a paru un petit peu étrange, un peu comme un. Parce que quelque part, je n'ai pas spécialement à être directeur de département. Donc, en éliminant ce département, moi, je suis devenu chef de service au sein du département du dépôt légal, où mon projet est devenu un service. C'était une étape de maturité, service de dépôt légal numérique. Et on a continué donc, jusqu'à mon départ cet été, où on m'a proposé donc, cette fois de devenir directeur de département de l'information biographique et numérique. Et ce qui m'a intéressé dans ce choix-là, c'est que jusqu'à présent, j'avais essayé de mettre le web dans la bibliothèque. Et l'enjeu de ce département, c'est de mettre la bibliothèque sur le web. C'est-à-dire d'exposer les métadonnées qui sont le cœur d'activité de l'ancienne agence bibliographique dans un format et d'une manière avec des services qui les mettent sur le chemin des internautes et non plus enfermés dans les catalogues. Donc c'est, voilà, je travaille là-dessus maintenant.
D'accord. Juste quand vous parlez de patrimoine numérique, vous parlez donc de documents patrimoniaux numérisés ou alors aussi de ce qui se produit sur le web comme devant donc intégrer le patrimoine, quoi, devant être conservé au titre du patrimoine.
Je pense qu'il faut avoir la vue globale, hein, mais ce n'est pas le même problème. En tout cas, ce n'est pas les mêmes leviers. Le choix de mettre en ligne certains documents plutôt que d'autres relève vraiment d'une logique de diffusion, en fait, et de valorisation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut donner au plus grand nombre maintenant ? Mais globalement, la démarche de numérisation qui va s'étendre sur des longues années, elle inscrit quand même dans la durée un choix documentaire et patrimonial. Avec le patrimoine né numérique, la problématique et les outils sont assez différents. Parce que d'abord là, il y a une urgence. C'est-à-dire que les documents numériques ont une durée de vie limitée en ligne, de quelques dizaines de jours. Et donc là, on est plus dans le sillage des grandes campagnes photographiques ou ethnographiques de la fin du 19e ou des grands explorateurs. C'est cette idée que les traces du présent sont fragiles et que donc si l'institution ne fait rien pour en choper quelques traces, en constituer un échantillon, là, maintenant, tout de suite, avec les moyens du bord, il ne restera rien de notre mémoire collective. Ce qui est une approche assez différente de la numérisation où quelque part, sauf pour la période noire de la presse ou certains documents particulièrement fragiles, les documents ne disparaissent pas. Ils sont en sécurité dans les magasins, on sait les conserver, etc. Là, on est sur plutôt la création d'un patrimoine de l'immatériel, né numérique, qui pose des questions super intéressantes parce que, pour l'analogie, qu'on pouvait vivre dans l'illusion de l'exhaustivité. Je parle du dépôt légal. Ouais. Voilà, 70 000 ouvrages par an. Je parle que des monographies. Mais... c'est gérable. Derrière, il y a 60 catalogueurs, un département de 140 personnes. C'est énorme, mais c'est gérable. Le web, c'est des chiffres qui font qu'on ne peut plus tout prendre. Donc ça remet en fait sur la table la question du patrimoine au sens où il faut une sélection. Il faut choisir. Alors, est-ce que c'est une sélection ? Est-ce que c'est un échantillonnage ? Est-ce qu'on vise la représentativité ? Est-ce qu'on vise la qualité ? Comment on définit cette qualité ? Selon quels critères ? Comment est-ce qu'on anticipe ce qui intéressera les générations futures ? Ça, je trouve que c'est des questions qui sont passionnantes. Et si on est égal, en fait, on engage une responsabilité, à la fois personnelle et collective. Et ça, j'aime bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné de l'histoire des collections, et la BNF est pleine de gens comme ça, en dépit de toute l'attention à un cadre juridique, de procédures, de méthodes qui doivent être aussi rationnelles que possible, il y a des individus qui font des choix. Il y a des personnalités qui, à un moment donné, vont pousser pour obtenir des ressources, obtenir d'un collectionneur, d'un producteur, quelque chose des collections. Et en fait, c'est ça qui va aussi créer l'identité des collections de la bibliothèque. Et c'est la somme de ces individualités, de ces personnalités qui fait la BNF aujourd'hui. Et ça, c'est très beau, en fait. J'avais pas du tout cette vision-là de la BNF avant d'y venir, mais on sent qu'on est dans... enfin, qu'il y a des gens qui n'existent plus, mais qui sont encore là, et qu'il y a une sorte de transmission étonnante de l'esprit, en fait, de cette maison, et plus globalement, de ce que c'est qu'un patrimoine national, quoi. Et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est de sentir ça jusque dans le web, quoi. Et en même temps, c'était cohérent, parce que le patrimoine de la BNF s'est vraiment construit avec tous les virages, toutes les évolutions technologiques, depuis le manuscrit. Donc, en fait, c'est une étape naturelle d'un nouveau changement. Et la bibliothèque, on a connu tellement d'autres, ça s'inscrit vraiment dans cette tradition de changer, en fait. C'est un autre paradoxe. On est à la fois énorme, assez immobile, un paquebot, la BNF, longue à bouger, mais régulièrement a fait un virage qui est un peu lent, mais qui est structurant, en fait. Et ça, je trouve ça... Vous avez travaillé là, donc, oui. Je ne sais pas si vous partagez cette vision-là, mais bon.
Oui, oui. Bon, alors...
ouais, on se resserre.
Y a-t-il, selon vous, un esprit ANSIB?
Je pense que oui.
Oui.
Je pense que oui, et je le retrouve, en fait. Je vois souvent, en fait, chaque année, j'essaye d'avoir au moins de suivre un mémoire d'études. Ou d'être impliqué dans un projet ou quelque chose. Parce que j'aime bien l'ENSIM, en fait. J'ai un bon souvenir de l'ENSIM, oui. Parce qu'il y a cet esprit qui veut que... je pense qu'à la fois, on déteste et on aime l'ENSIM. Mm-hmm. C'est structurant dans le rapport à l'école. Mm-hmm. Et on... Peut-être pas qu'on la déteste, mais il y a une frustration pour des gens comme vous ou moi qui avons travaillé avant, revenir à l'école... en fait, c'est une très belle opportunité. En même temps, on est assez exigeant. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de travailler, de faire le meilleur usage qu'on peut de son temps, ce qu'on est payé. Enfin, il y a une conscience de ça qui est très forte. Donc, on voudrait que tout soit parfait. Et on voudrait aussi avoir la main sur son emploi du temps, sur ses choix. Et l'école reste une école. Donc, il y a un caractère scolaire, se retrouver assis pendant des heures quand on a l'habitude d'être actif dans le monde professionnel... C'est terrible. C'est terrible parce qu'on a envie de bouger, on a envie de pouvoir se lever pour faire ce qu'on... Enfin, voilà, d'être autonome. Et c'est une école. Donc, il y a évidemment des marges d'autonomie, il y a des projets, des activités qui permettent de faire ça. Mais pour moi, c'est vrai que c'était un moment de... Moi, qui était assez pénible d'être assis tout le temps, tout simplement, d'écouter des gens. Après, des enseignants, ça dépend énormément des époques. Moi, j'étais dans une époque de transition. Mais à chaque fois que je parle avec un étudiant d'ENSIB, j'ai l'impression qu'il vit aussi une époque de transition. Mmh. Le sentiment que l'école reconstitue perpétuellement son programme. Ce qui est intéressant, parce que ça montre qu'il y a, elle n'a pas trouvé peut-être sa maturité ou sa stabilité du point de vue de son organisation. Mais le fait qu'elle réinterroge continuellement ses formations et sa manière de fonctionner, c'est plutôt sain, parce que le monde de l'information change aussi tout le temps, la bibliothèque change tout le temps. Donc, quelque part, qu'un étudiant soit dans un environnement, on lui dit « c'est comme ça cette année, mais ça va changer l'année prochaine », ça le prépare à ce que ça va être sa profession. Parce que la première qualité d'un conservateur, je pense, c'est d'être apte au changement et de pouvoir le conduire. Ça, je pense, c'est fondamental. Donc, l'esprit ANSIB, ce serait le partage d'une forme de frustration qui, selon les élèves, va s'exprimer pour différents motifs, aussi l'éloignement géographique pour certains, etc. Et en même temps, il y a un côté régressif, totalement jubilatoire. qui pour moi est à la base, enfin le mélange de cette frustration et de cette jubilation crée une communauté. Alors certains diront que c'est un corporatisme, je ne veux pas le voir comme ça parce qu'on va partager ça indépendamment des statuts avec d'autres catégories de personnel, mais l'expérience de l'ENSIB est une expérience structurante d'un point de vue d'identité professionnelle. La succession des promos, celle d'avant, celle d'après, qu'on retrouve après dans la vie professionnelle, va créer un réseau, enfin c'était votre question, pour la vie, quoi, toute la vie professionnelle. Moi, les gens qui étaient dans ma promotion, dans les promotions avant ou après, sont la base de mon réseau professionnel actif. Je ne sais pas il y a combien de temps j'ai fait ici, 2003, ça fait 8 ans. Mm-hmm. Alors, il y en a que je n'ai jamais revu, mais il y en a beaucoup. On s'est retrouvés dans des réunions, on était censés être opposés par exemple, parce que intérêts, objectifs différents, mais parce qu'on se connaît, on n'a pas besoin de se prendre au sérieux, enfin, on peut être sérieux et en même temps on peut avoir des discussions argumentées, intelligentes, amicales, Et ça crée cette distance par rapport à l'affect, je trouve. Et en même temps, ça crée, grâce aux amitiés qui se tissent, une affection dans l'école, sinon pour l'école, au moins dans l'école, une communauté. Donc je pense que tout ça qualifie un esprit. Avec cette idée forte que, pour moi en tout cas, la première qualité de l'école, c'est la qualité de son recrutement, quoi. On apprend autant, sinon davantage, des autres élèves que de l'enseignement à proprement parler. Mais j'ai une collègue qui est assez connue, Emmanuelle Bermès.
Ah oui.
Elle avait une formule que je partage complètement qui était l'ENSIB, c'est bizarre. Quand on y est, on n'a pas vraiment l'impression d'y être. Et tout d'un coup, quand on en sort, on a l'impression qu'elle vous a traversé.
D'accord.
Et je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'on vit ça comme une espèce de mirage, une expérience étrange, un long tunnel, avec des épisodes, quelques fêtes, quelques rituels, des moments durs. Et tout d'un coup, on est sorti, et pendant toute la scolarité, on s'est plaint, on a bougonné avec les autres. Et je trouve que les jeunes collègues qui sortent de l'école, ils sont très remontés quand ils sortent de l'école, parce qu'ils n'en peuvent plus, ils veulent absolument travailler pour de vrai, etc. Ils sont très méchants avec l'ENSIM, mais je leur dis, attendez un peu. Et en fait, on se rend compte quand les années passent, qu'on voit justement comment ce qu'on a appris se fructifie, comment le réseau aussi se construit, finalement, on ne regrette pas. Voilà. Et c'est cette idée que ça vous a traversé sans que vous en rendiez compte, mais vous apprenez aussi. Parce qu'on ne peut pas parler que de l'intérêt social de l'ENSIM, il y a quand même des choses extrêmement structurantes au niveau de la formation professionnelle. Et moi, justement, qui croyais déjà tout savoir en arrivant à l'ENSIM, j'y ai appris plein de choses, vraiment, objectivement.
Alors est-ce que vous êtes revenu à l'ENSIB? Est-ce que vous avez éventuellement donné des cours ou... Oui?
Oui, alors de différentes manières. Donc ce que j'aime bien quand on me le propose, c'est essayer une fois par an de suivre les travaux d'un étudiant,
Oui.
mémoire d'études. Ça, je
Cette
trouve ça
année
très
ou
intéressant.
vous avez...
Cette année, j'en ai pas, en fait.
D'accord.
En fait, là, les 3 dernières années, j'ai suivi, alors autour de mon secteur, j'avais fait un très très intéressant sur mémoire d'études sur faut-il archiver les blogs des adolescents. Là, plus récemment, c'est quel dépôt légal pour les e-books. Voilà, et puis là, bah, je pense que je vais aussi moi prendre des marques dans mon nouveau poste pour maîtriser mes
Oui.
sujets avant de devoir diriger des travaux dans ce domaine. Et puis je suis intervenu, mais c'est plus ancien, c'est quand j'avais encore le temps, en tant que formateur, en formation continue en fait, sur les questions d'évaluation, statistiques, évaluation, indicateurs, etc., qui était une ancienne spécialité avant que je sois dans le numérique. Qui était très lié à ça, et sur la politique documentaire aussi. Et puis, je crois que j'avais été sollicité par l'ANSI pour, à l'époque, de la définition du nouveau projet d'établissement. On m'avait demandé mon avis, j'avais été dans un panel, des choses comme ça. Voilà, donc je passe de temps en temps. J'aime bien.
Ensuite, connaissez-vous l'enseignement actuellement dispensé aux élèves conservateurs? À votre avis et selon votre expérience, que faudrait-il enseigner en priorité?
Ce que je sais qui m'avait marqué, c'était la dissociation entre le mémoire de stage, enfin le mémoire d'études et le stage.
Oui.
Voilà. Et ça, pour moi, je sais que c'est un choix fort qui se défend dans l'idée que le mémoire doit être une production scientifique, dans la mesure où les conservateurs sont des personnels scientifiques et que ce temps d'études, il est important. Donc ça se défend comme argument. Ce que je trouve dommage, mais c'est peut-être du point de vue des établissements qui accueillent des stagiaires, c'est que du coup, sur un stage de 3 mois, il n'y a pas ce côté d'un. Parce que souvent un stage s'articule avec une étude qui se veut quand même applicative. C'est-à-dire qu'un établissement vous pose un problème, vous y apportez une réponse, vous n'êtes là que 3 mois, donc la réponse, vous n'allez pas l'apporter en termes de mise en œuvre immédiate. Donc souvent, ça prend la forme d'une étude quand même. Et du coup, ça fait un peu double peine, je trouve, pour les étudiants. Parce que quand ça se passe bien, l'étudiant va produire en fait un deuxième travail, mais qui celui-là n'est pas reconnu par l'INSEEP parce que ce n'est pas vraiment le rapport de stage, c'est souvent une étude propre à l'établissement qui est intéressante. Et du coup, je trouve que ça fait plus de travail. Et moi, j'aimais bien l'exercice qui consistait à coupler une réflexion théorique avec une application pratique. Voilà. Après, je pense que tous les stages, tous les environnements de stage ne se prêtent pas forcément à ça. Et que c'est vrai que c'est bien d'avoir un moment où on se pose pour écrire dans les règles de l'art, on va dire. Après, sur les grands blocs qui existent, donc je sais qu'il y a les grandes spécialités, conservation, numérique, service au public. Déjà, je pense que ces trois-là étaient identifiés comme les grands blocs structurants pour la formation. Ça correspond aux besoins de la profession aujourd'hui, considérant que les autres sujets sont plus traversants, de façon transverse, plus technique, mais pour partie du bagage, mais quitte à se spécialiser, le choix de ces trois-là me paraît bien. Ce que je trouve dommage, c'est que quelque part, alors c'est peut-être le biais du poste que j'ai occupé, celui que je poste aujourd'hui, ou le fait que je suis à la BNF, c'est pour moi, en fait, ce qui est super intéressant, c'est de se poser la question de la conservation numérique, du patrimoine numérique, et par ailleurs des usages et des services numériques. Et j'espère, parce que je n'ai pas le détail, que sur ces trois grands blocs, chacun a la possibilité d'avoir quand même bénéficié d'une bonne vue des formations, des expertises, parce que j'ai presque envie de dire, oui, c'est les trois sujets importants aujourd'hui, mais la vraie question, c'est comment on les lie entre eux. Voilà. Donc, si on se surspécialise sur l'un et qu'on n'a pas les autres morceaux du puzzle, c'est un petit peu dommage. Mmh. Bon, après, l'expérience du projet est une très belle expérience.
Oui.
Mmh. Qu'elle soit bonne ou pas bonne. Enfin, y a des gens qui, selon les groupes, les sujets, les commanditaires, ça se passe plus ou moins bien. Mais c'est vraiment une excellente chose que ça existe toujours, je pense.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et ça paraît idiot parce que même quand on a bossé avant, on a l'impression d'avoir de savoir ce que c'est la gestion d'un projet. Mais c'est vraiment sain de se retrouver en fait en situation collective, d'aborder un planning, des rôles, un budget, un livrable, dans un temps limité, avec des interactions avec toutes sortes d'acteurs. Ça, c'est très structurant. C'est vraiment bien. Et alors, tout le background un peu théorique sur la gestion de projet, j'y crois pas trop. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un tout petit minimum de règles de base, de bon sens à rappeler au début, mais l'essentiel, c'est la pratique. Voilà. Et ce qui se passe dans un groupe pendant le projet est extrêmement instructif. Et je pense que ça aide aussi. Ça peut aider un élève à se rendre compte de son rôle, de son profil. Quel type de manager êtes-vous? Quel type de conservateur êtes-vous? Parce qu'il y a des choses qui se dégagent très vite. Est-ce qu'il y a des leaders? Est-ce qu'il y a des experts? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en fait plutôt ceux qui vont favoriser, je dirais, la paix sociale, le compromis, l'équilibre? On voit en fait des tempéraments, Des talents qui se détachent, qui vont en fait se retrouver dans la carrière des gens. C'est assez intéressant de voir ça après.
Donc maintenant, est-ce que vous referiez le même choix de carrière aujourd'hui ?
Je pense que j'exclus pas de changer de métier un jour. Je ne serai pas forcément conservateur de bibliothèque toute ma vie, parce que je pense que dans la manière dont on regarde un horizon de vie professionnelle et de vie en général, il faut toujours se garder la possibilité de changer, y compris d'aller voir ailleurs. Donc je ne suis pas marié avec ce métier, mais je ne regrette pas du tout de l'avoir choisi. Tant qu'il me permettra de continuer à évoluer dans le monde des bibliothèques, je resterai dans les bibliothèques. Après, si je vois qu'il y a justement des plafonds de verre, pas en termes de d'ascension, responsabilité, mais en termes de... Enfin, ce qu'on aime dans le travail, c'est avoir une idée et la réaliser. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte budgétaire, d'autres formes de contraintes, pas que la BNF, fond, qu'entre le rêve et la réalité, ben, y a une sacrée passerelle. Non, je le referai. C'est un métier génial parce que, pour les raisons que j'ai dites, moi j'aime l'organisation, j'aime les systèmes, j'aime les gens. C'est vrai que par rapport à la représentation classique du bibliothécaire, mon métier n'a rien à voir. Je vois jamais de livres, de documents, enfin, pas sous une forme physique. Enfin, non, j'ai très peu de rapport direct avec le document. Je travaille sur le numérique, donc ma bibliothèque est totalement dématérialisée. Ce sont des données, ce sont des entrepôts, en tout sens vraiment d'entrepôts de données qu'on moissonne, qu'on stocke, etc. Et comme j'ai pas de rapport affectif particulier à l'objet livre, ça ne me dérange pas en fait. Ce qui est important, c'est comment les stocks deviennent des flux, est-ce que les données sont détruites ou pas, est-ce qu'on arrive bien à les garder, est-ce qu'elles sont utilisées, par qui, et comment reconstituer un propos scientifique à partir de ce qui paraît totalement désincarné, c'est-à-dire des zéros et des 1. Et pour moi, il n'y a en fait aucune différence avec autrefois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous investissez de l'argent public et de l'effort humain dans la constitution d'une collection, il faut pouvoir justifier de sa nécessité et de sa valeur. Et que on peut tourner le truc dans tous les sens. Au final, à la fin de la journée, c'est ce qu'on doit faire pour tout ce qu'on fait en tant que conservateur. C'est justifier par rapport à sa tutelle, par rapport à ses autorités, par rapport à ses lecteurs, mais aussi par rapport à soi-même. Alors, je pense que moi, je suis très attaché au sens. Faut que mon travail ait un sens. Je pense que tout le monde. Et alors, moi, je suis particulièrement exigeant dans la manière dont je le formule. Mais si on n'a pas une motivation profonde, éthique ou scientifique par rapport en lien avec le poste qu'on occupe, bah, il faut arrêter, quoi. Il faut faire autre chose, je pense. Il y a une sorte de qualité d'âme à trouver derrière des objets qui peuvent paraître assez monstrueux ou arides. Et ça, peut-être par rapport à la représentation classique du bibliothécaire, c'est qui est quand même une chose qui, sauf pour les amoureux du livre, type j'aime les livres, il y a quand même une vision aride de ce métier-là. Les gens n'ont pas l'air marrants, quoi. Et ça, je trouve qui est intéressant comme époque, c'est qu'on est aussi dans une vraie mutation démographique de la profession. Donc beaucoup de gens sont partis à la retraite ou vont partir à la retraite dans les 5 années qui viennent. Et on assiste à un renouvellement de génération qui est très profond et qui change de style quand même. C'est-à-dire que l'image du bibliothécaire à Chignon, dans sa bibliothécaire poussiéreuse, c'est fini. On est sur autre chose. Et du coup, c'est un moment super intéressant pour les gens de mon âge, de ma génération, où du coup, on est arrivé assez rapidement en situation de responsabilité par rapport à. Bah, à quel âge c'était possible il y a 10 ans, quoi. Moi, j'ai 39 ans, je suis directeur de département à la BNF, ça paraît très jeune, en fait. Et en même temps, bon, on m'a nommé, et puis il y en a d'autres qui ont le même âge. Et du coup, il y a un mouvement, je dirais, où on s'autorise à revisiter des choses qui pouvaient paraître inamovibles, fondamentales, gravées dans le marbre. Et quelque part, on est même encouragé à le faire par nos directions. Ce mouvement, cette dynamique-là est très intéressante. Et pour lier et conclure avec le lien à la crise, en fait, la crise budgétaire, la crise des emplois, etc. Évidemment, c'est un contexte général dont on ne peut pas se réjouir, quoi. Mais moi, j'ai appris quelque chose, c'est que toute crise est utile parce que la diminution des ressources oblige à questionner les choses fondamentales qu'on fait, oblige à trier, à prioriser, à éliminer certaines tâches, ce qu'on n'aurait pas fait par confort ou par habitude autrement. Et du coup, ça oblige justement à se reposer un petit peu à un niveau plus profond la question du sens de ce qu'on fait, de pourquoi on le fait, pourquoi ça doit changer. Donc, Les situations de contrainte, de tensions budgétaires, de refus, etc., sont nombreuses. Elles sont frustrantes, elles sont difficiles. Le travail d'un directeur, c'est fondamentalement, c'est de vendre son affaire, d'obtenir des ressources pour ses équipes, pour ses projets. Donc, c'est des ressources humaines, c'est des ressources budgétaires, c'est des ressources informatiques en numérique. Et souvent, on lui dit non. Et donc, je pense que la posture qui consiste à dire si on me dit non, bah, je fais pas, je fais rien, elle n'est pas tenable, en tout cas, elle n'est pas responsable si on est en situation de responsabilité. Ce qui est important, ce qui fait sens et qui en même temps est difficile, c'est de dire ok, je dois faire autrement, avec moins de ressources. Mais du coup, réfléchir à comment j'adapte mon organisation à ce qui se dégage comme les vrais besoins, les besoins les plus importants, et du coup faire des choix stratégiques. Alors que si quelque part il n'y avait pas de crise, je pense qu'on aurait plus, on a traversé des périodes de ce type-là, dans une logique où on accumule, où on stratifie les missions et les activités, et du coup on grossit sans forcément être soi-même convaincu que tout ce qu'on fait est légitime du point de vue de l'investissement du contribuable, de la dépense publique, quoi. C'est vrai que moi je suis très, très dépense publique. Enfin, chaque jour où je viens ici, je me dis, bon, je suis dans une. Je crois que c'est l'établissement, le premier budget, le ministère de la Culture, l'établissement culturel le plus cher en France, peut-être en compétition avec le Louvre. Et donc je me dis, voilà, il faut qu'on donne aux citoyens, même celui qui n'est pas né, puisqu'on travaille aussi pour les générations futures, enfin, ne pas oublier qu'on travaille aussi pour celui-là, faut qu'on leur donne pour leur argent, c'est-à-dire qu'on crée de la valeur. De la valeur et pour bien créer de la valeur, je pense qu'il faut créer du plaisir dans le travail. Enfin, j'y crois beaucoup. Donc j'essaye de. Là, je découvre un département où je viens d'arriver qui a sédimenté depuis longtemps sur des missions qui sont ce qu'on appelle le cœur de métier. Et donc j'essaye de voir comment les gens se font plaisir ici et comment ça peut évoluer, comment surtout partager ça. Parce que le risque, c'est. Là, on rejoint la vision. Du stéréotype, les gens sont quand même beaucoup la tête dans le guidon. Ouais. Je trouve que, surtout dans des organismes très gros, donc forcément très spécialisés, je suis étonné de voir à quel point on s'accroche à un outil, un fonds, un territoire, en fait, et avec une difficulté à mettre ce qu'on fait en relation avec ce que font les autres et ce que fait la bibliothèque dans son ensemble. Et je pense que ça, c'est vraiment un rôle très fort d'animateur, d'un conservateur, en situation d'encadrement, c'est d'essayer d'abattre un petit peu les visières des gens sur leurs tâches. Souvent, les gens bossent beaucoup, mais dans un sens, quoi. Donc, à un moment donné, il faut leur dire stop, les empêcher de travailler, les extraire, les mettre dans une capsule spatiale et les mettre ensemble aussi. Pourquoi on est là?